Le message pour aujourd'hui, si vous voulez un titre ou si vous voulez noter, ce serait « Comment avoir un esprit fort ?» Comment avoir un esprit fort ? Et j'étais en train de prier, de chercher le Seigneur pour voir qu'est-ce qui serait bon de partager aujourd'hui. Et j'ai eu cette pensée, donc j'ai commencé à regarder, à chercher dans la parole et à essayer de saisir ce qu'il voulait nous dire. Et j'ai réalisé combien c'était un message qui pouvait... Enfin, qui était important et qui pouvait complètement changer notre vie, en fait. Et on va regarder ensemble plusieurs choses dans la parole, mais vous allez voir que ça va vraiment, vraiment faire du bien. Et des choses que vous savez peut-être ou que vous avez entendues, mais aujourd'hui, à travers cette parole, on va ensemble voir comment faire pour avoir un esprit fort. Alors, qu'est-ce que c'est un esprit fort ? On ne parle pas du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, il est toujours fort. Le Saint-Esprit est toujours fort, le Saint-Esprit n'a pas de variation, il va très bien. Non, on parle de l'esprit, si on peut dire l'esprit humain, c'est-à-dire que je parle de nous, notre personne. Et à ce sujet, je vais vous montrer, ou vous rappeler en tout cas, dans 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23, où il y a une parole de bénédiction qui est prononcée, mais qui nous donne une indication sur comment nous sommes constitués, sur comment nous sommes faits. Il est dit là, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, on pourrait tout simplement dire aussi que tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Hein? Donc ici, on voit clairement dans la parole que l'esprit, l'âme et le corps, c'est ainsi que nous sommes constitués, c'est notre être. Je vous rappelle, on ne va pas y revenir, mais que dans la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme, il dit « Faisons l'homme à notre image ». Et je vous rappelle que Dieu se révèle dans la parole aussi en trois personnes, si on peut dire, ou en trois dimensions, le Père, Fils et Saint-Esprit. Et de la même manière, nous avons trois dimensions de notre être. Nous sommes esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Alors, qu'est-ce que l'esprit ? Eh bien, notre esprit, en fait, c'est notre vraie personne, c'est notre vraie nature. Je suis un esprit. Vous savez, nous sommes des êtres spirituels. Hein? Souvent, les gens disent, ouais, bon, on est une personne, je suis un corps, voilà, c'est ce qu'on voit, et éventuellement, j'ai une intelligence, j'ai des émotions. Bon, ok. Donc, notre esprit, c'est notre vraie personne. Nous sommes un esprit. Nous avons une âme. Notre âme, ce sont nos sentiments, nos émotions, notre intelligence, notre volonté aussi. Donc c'est en fait, on pourrait dire, notre personnalité. Et puis notre corps, bon, c'est ce qu'on voit le plus facilement, c'est ce que vous voyez des réalités extérieures. Et on peut comprendre que notre corps, en fait, nous permet d'être au contact des réalités physiques ou naturelles. Notre âme nous permet d'être au contact des réalités de l'intelligence, des choses psychologiques, des choses de cet ordre-là. Et puis notre esprit nous permet d'être au contact des réalités spirituelles. Et bien souvent, on se rend compte que si vous interrogez un peu les gens autour de vous, bah, les gens croient facilement que bon, on a un corps, hein, puisque ça c'est visible, et éventuellement qu'on a une âme, puisque même la psychologie, en fait, essaye de s'occuper de l'âme des gens, on essaye de s'occuper de leur personnalité, on essaye de résoudre des problèmes moraux et tout ça. Mais en fait, la seule vision qui est donnée plutôt dans le monde, c'est un corps, éventuellement une âme, mais il n'est jamais question de l'esprit. Il n'est jamais question de l'esprit, et c'est ce qui explique aussi, entre autres, pourquoi on n'arrive pas à résoudre le problème des gens. Pourquoi on a des gens dans des hôpitaux psychiatriques? Pourquoi on a des cas où on dit bah, c'est des fous et on n'arrive pas à résoudre? Eh bien, parce que la psychologie qui traite l'âme ne suffit pas, on a besoin de traiter aussi l'esprit. Et sans aller jusqu'à là, je vais vous montrer aujourd'hui à travers la parole qu'on a besoin de s'occuper de notre esprit. Hein? Vous savez, on peut assez facilement réaliser qu'on a besoin de s'occuper de notre corps, puisque ben, on se soigne, on se lave, on fait des choses sur notre corps. Hein. Des fois même, les gens vont faire de l'exercice physique, les gens vont faire de la musculation, de la gymnastique, etc. On s'occupe du corps. On s'occupe éventuellement de son âme, puisque quand vous vous cultivez, quand vous apprenez des choses, ben, vous nourrissez votre intelligence, vous vous occupez de votre âme. Quand vous vous faites plaisir d'une manière ou d'une autre, bah, vous nourrissez votre âme. Mais très souvent, l'esprit, c'est une partie un petit peu... déjà pour le monde, c'est totalement inconnu. Mais même pour beaucoup de croyants, L'esprit, c'est un petit peu flou, on ne sait pas trop ce que c'est et on s'en occupe très peu, voire pas du tout. Et l'objectif de ce message, c'est nous faire prendre conscience que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps, et aussi de voir comment la parole nous exhorte à nous occuper de notre esprit et comment faire pour avoir un esprit fort. Hein? Alors, je vais vous proposer de lire deux passages. Le premier, c'est toujours Paul qui parle dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 4. On va prendre le verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Il déclare « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Donc là, on voit clairement qu'il y a une différence entre ce qu'on peut appeler l'homme extérieur, qui est en fait notre corps. Hein, quand il se détruit, bon, c'est pas forcément qu'il se détruit, qu'il est beaucoup blessé, tout ça, mais en fait, il est facile de constater que plus le temps passe, plus les années passent, et plus notre corps, ben, il subit un vieillissement. Mais ça, c'est notre être extérieur, c'est notre corps. Mais Paul déclare ici que pendant ce temps, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce qui veut dire que notre être intérieur, c'est-à-dire notre esprit, la vraie personne qui nous sommes en nous, n'est pas touchée par le vieillissement. Mais elle devrait se renouveler de jour en jour. Et notre esprit devrait grandir et grandir et grandir et grandir parce qu'en fait, notre esprit est éternel. Donc il vieillit pas, mais il a besoin d'être nourri et de grandir. On va regarder ça un peu plus précisément tout à l'heure. Donc c'était juste pour appuyer encore la différence entre l'être extérieur et l'être intérieur. Hein. Nous avons un corps, c'est vrai, mais ce qui est important, c'est notre esprit. Et je vais vous montrer deux passages des Proverbes à travers lesquels on va très rapidement et très facilement comprendre l'importance de s'occuper de notre esprit. S'occuper de notre esprit. On va prendre Proverbe 4. Au verset 23. Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Donc ici, il nous a dit « Garde ton cœur. » Alors bien sûr, ce n'est pas le cœur physique, hein, la pompe à sang, là. C'est « Garde ton cœur. » En fait, ce mot souvent est utilisé aussi pour dire « Garde ton esprit. » C'est le même terme. Et en fait, garde, on pourrait aussi le transposer et dire « Occupe-toi de ton cœur, occupe-toi de ton esprit, plus que de toute autre chose, car quoi, de lui viennent les sources de la vie. » Donc en fait, la vie jaillit de notre esprit. Alors, c'est vrai que la vie nous vient de Dieu, hein, ça on est totalement d'accord. Mais je vous rappelle, encore une fois, que lorsque nous sommes nés de nouveau, Dieu a recréé notre esprit et il nous a communiqué sa vie. Hein, ce qu'on appelle aussi la vie Zoé ou la vie de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est là. Mais donc c'est de notre esprit que la vie jaillit. Ce qui est rappelé dans ce passage, donc nous devons garder notre cœur ou bien garder notre esprit. Et plus que de le garder, en fait, ça veut dire nous en occuper, en prendre soin. On pourrait également dire le développer. Puisque plus tu vas t'occuper de ton esprit, plus ton esprit va se développer, va devenir fort, et plus la vie qui jaillit de ton esprit va pouvoir jaillir aussi avec force. Et un esprit fort va nous permettre d'avoir un être tout entier qui soit fort. Si notre esprit est fort, notre âme sera forte. On sera fort dans nos sentiments, dans nos émotions. On aura de la stabilité. Si notre esprit est fort, notre corps sera fort. On sera beaucoup moins sensible à la maladie, jusqu'à même ne plus jamais tomber malade. Parce que de notre esprit jaillissent les sources de la vie. C'est ce que la parole dit, hein. C'est pas moi qui l'invente. Un autre passage dans les Proverbes encore. Pour poser bien ce fondement, Proverbe 18, surtout au sujet de ce que je viens de dire et qui peut-être a fait s'écarquiller quelques yeux, mais c'est écrit, Proverbe 18, 14, il est dit « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Donc si votre esprit est fort, eh bien, quand vous êtes malade, c'est votre esprit qui va vous aider à vous relever de la maladie. C'est-à-dire qu'un esprit fort va pouvoir influencer votre corps et votre être tout entier pour que la vie de Dieu qui est là dans votre esprit et qui doit en jaillir commence à investir votre âme et votre corps. Mais pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il soit fort. Et pour ça, il faut que nous le fortifions. Alors, juste pour encore vous expliquer, pour illustrer, je vais vous faire une petite expérience physique avec un petit gant que j'ai ici. Je vais essayer de le mettre sans le casser. Ok. Bon, si j'ai un gant sur ma main. Bon, le gant se bouge, le gant actif. Beaucoup de gens, quand ils voient ça, ils se disent, bah oui, c'est un gant. Et de la même façon, beaucoup de gens, quand ils regardent à l'homme, à qui ils sont, ils disent, bah oui, on a un corps. On a un corps, on a des sentiments, tout ça, mais ils ne voient que le corps et ils estiment que le corps, c'est tout notre être. Mais maintenant, de la même façon que ce gant, quand il est sur ma main, il peut bouger, il peut faire des choses. On a l'impression même que si tu ne vois que la main dans le gant, tu peux dire bah, la main ou le gant prenne des décisions, il fait certaines choses, il attrape le pupitre, il peut faire des choses. Mais quand tu retires le gant et qu'il est tout seul, il ne peut plus rien faire. Hein? Un gant comme ça, il est... voilà. Ok, il peut rien faire. Et de la même manière, exactement de la même manière, un corps sans esprit, c'est pareil que ça. Ça sert à rien, ça fait rien. Quand quelqu'un meurt, son corps, vous vous rendez compte que, ouais, si la personne est morte, vous prenez son bras, vous le soulevez, vous le relâchez, il tombe. Et il va pas réagir, il va rien faire de lui-même. Et un corps sans un esprit, il n'est rien, il n'est pas vivant. Il n'y a rien, c'est pas possible. Ce qui donne vie à notre corps, c'est notre esprit qui est à l'intérieur. Hein? Et quand on regarde à notre être, il est donc important non seulement de soigner notre corps, mais aussi de soigner notre esprit, puisque c'est notre esprit qui donne la vie à notre corps. Ce serait un peu bête d'accorder beaucoup de soin à un gant qui en lui-même ne sert à rien. C'est la main qui l'anime, qui va donner vie au gant de la même manière. C'est notre esprit en nous qui donne vie à notre corps et à notre être. Donc il est important, et la parole nous l'a montré à travers ces passages, de nous occuper de notre esprit et d'avoir un esprit fort. Et à ce sujet, j'en profite pour faire une petite parenthèse, un corps sans esprit ne peut pas vivre. Ça, c'est comme ça, puisque quand quelqu'un meurt, le corps, vous vous rendez compte qu'il ne sert plus à rien, il n'est plus animé, puisque lorsqu'on meurt, notre esprit s'en va. Mais maintenant, un esprit humain n'a pas le droit d'exister sur la terre sans un corps. Sur la terre, on a parfois des esprits démoniaques qui peuvent circuler, ça c'est une chose, mais un esprit humain ne peut pas exister sur la terre sans un corps. Une fois que vous mourrez, automatiquement, soit votre esprit monte vers le Père parce que vous êtes en lui, soit votre esprit descend vers l'enfer parce que c'est là ce qui vous attend si vous n'êtes pas en lui, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Donc à aucun moment une personne qui est morte ne peut vous apparaître. À aucun moment une personne ou un esprit ne peut vous parler. Et parfois les gens consultent les morts, c'est même pas vrai. Ils pensent consulter les morts, mais en fait ce qui se passe à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle que des esprits familiers qui entrent en scène. C'est-à-dire que des esprits familiers, c'est certains démons qui ont eu l'habitude de tourner autour de la personne et donc qui connaissent des choses sur la vie de la personne. Et parfois, des gens ont l'impression d'avoir parlé à un mort, ils disent, voilà, ils ont interrogé et puis ils ont entendu une voix leur répondre. Mais en fait, c'est pas le mort qui a répondu, il peut pas, parce que les esprits humains ne peuvent pas exister sur la terre. C'est pas possible. C'est un démon, hein, qu'on appelle un esprit familier, qui connaissait des choses sur la personne et qui est capable de vous dire des choses très précises, mais c'est pas la personne. Quand on meurt, soit on monte, soit on descend, mais on ne peut pas rester sur la terre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça, c'est important à savoir. Et si vous avez un problème avec ça, eh bien, vous pouvez prendre autorité, puisque ce sont des esprits séducteurs, c'est-à-dire qui se servent de certaines choses qu'ils connaissent et voire même qui se moquent de vous, puisqu'ils se font passer pour qui ils ne sont pas. Hein? Mais les hommes ne peuvent pas vivre sur la terre autrement qu'avec un corps. Et donc une fois que vous êtes mort, c'est que votre esprit est parti, bah c'est fini. Il n'y a pas de... Une personne ne peut pas hanter un endroit. Les démons peuvent le faire, mais pas une personne. Un esprit humain ne peut pas. Un esprit humain a été créé pour vivre dans un corps. Quand il n'y a plus le corps, hop, l'esprit est soit avec Dieu, soit en enfer. Je referme la parenthèse, mais en tout cas, il nous faut réaliser que donc nous sommes un esprit. Nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Et au moment où nous mourrons, là, notre esprit va partir. Il y a des fois aussi des gens qui se posent des questions, qui se disent, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pas errer sur la terre, tourner en rond? Est-ce que... Non, c'est soit tu montes, soit tu descends. C'est pas compliqué, la parole l'enseigne. Là, je prends pas le temps de le développer, mais c'est important quand même d'être dit, parce que des fois, il y a des gens qui disent des choses et en fait, elles ne sont pas vraiment, vraiment justes et vraiment fondées. Une personne, un homme ou une femme ne peuvent pas rester sur la terre autrement qu'avec un corps. Si t'as pas de corps, bah, t'es plus là. T'es plus là. Voilà. Mais nous sommes esprit. Et en fait, le plus important, donc, c'est notre esprit. Et Proverbe disait, garde ton cœur plus que tout. Ou bien, garde ton esprit plus que tout. Donc, nous avons besoin de prendre conscience de notre esprit et de nous en occuper. Et l'une des manières de prendre conscience du fait que nous sommes esprit, avons une âme et vivons dans un corps, très simplement, c'est de, quelquefois, de nous le répéter. Et des fois, de se dire, bah, je suis un esprit, j'ai une âme, je vis dans un corps. Et ça, des fois, ça nous aide à prendre conscience et à passer du modèle qu'on peut appeler charnel, où nous sommes souvent, où notre corps nous donne des informations et on a l'impression que c'est vraiment ce qui est véritable, à un modèle spirituel où les informations que nous donne notre corps ou que nous donne notre âme vont être analysées à la lumière des informations que nous donne notre esprit, c'est-à-dire communiquées par l'Esprit de Dieu et en fonction ou en accord avec la vie de Dieu en nous. Ce qui cause du problème à beaucoup de gens, y compris des croyants, c'est qu'ils pensent que tout ce que leur dit leur corps, c'est vrai. Et ils vivent en fonction de ce que perçoit leur corps. Ils vivent ou bien en fonction aussi de ce que perçoivent leurs sentiments ou leurs émotions. Mais ce n'est pas le mode de vie que Dieu désire pour nous. Et la parole utilise plusieurs fois l'image entre l'homme charnel et l'homme spirituel. Et une personne charnelle, c'est quelqu'un qui accorde plus d'importance à juste la partie charnelle, c'est-à-dire le corps, voire l'âme. L'homme spirituel, c'est celui dont l'esprit a, entre guillemets, le dernier mot. C'est celui dont l'esprit fait, entre guillemets, la loi dans sa vie. Mais pour que ce soit possible, il faut que nous ayons un esprit qui soit fort. Si votre esprit est faible, c'est sûr que à chaque fois que votre corps donne une information, votre esprit ne peut pas vraiment répondre ni agir parce qu'il est faible, il n'a pas été travaillé, on n'en a pas pris soin. Et c'est ce qui explique que parfois on entend des chrétiens qui disent « ouais, mais c'est plus fort que moi ». Hein, même parfois par rapport à certains péchés, oui, mais c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Ben, si tu n'y arrives pas et que tu penses que c'est plus fort que toi, il est temps de t'occuper de ton esprit pour avoir un esprit fort. Parce que normalement, rien ne doit être plus fort que toi. Parce que nous devons régner dans la vie, à commencer par notre propre vie. C'est-à-dire que c'est moi qui décide ce qui se passe dans ma vie. C'est moi qui décide si mon corps est malade ou pas. C'est moi qui décide si je suis déséquilibré psychologique ou pas. Et c'est peut-être grave de dire ça, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Nous sommes appelés à gérer notre vie, entre guillemets, et nous sommes appelés à nourrir notre esprit, à le faire grandir, à le développer, à telle enseigne que ce soit la vie qui est dans notre esprit qui vienne influencer notre âme et notre corps. C'est encore une fois ce que disait Proverbe. De lui viennent les sources de la vie. Et si des fois on manque de vie dans différents domaines de notre existence, eh bien c'est peut-être qu'on a besoin de fortifier notre esprit pour que cette vie jaillisse sur tout notre être. Et plus notre esprit est fort, plus la vie de Dieu va pouvoir être manifestée et plus nous allons marcher aussi dans la victoire. Dans la victoire. Vous savez, parfois il y a des gens aussi qui ont du mal à croire certaines choses ou qui disent oui, c'est difficile d'avoir la foi, etc. C'est le même problème, c'est que souvent leur esprit n'est pas suffisamment fort. Et si votre esprit est fort, vous allez avoir une foi forte. Parce qu'un esprit fort, eh bien, comme la vie de Dieu est dans votre esprit et en jaillit, si votre esprit est fort, eh bien, ce qui va en jaillir, ça va jaillir avec abondance et ça va venir renverser et remplacer tout ce qui ne convient pas à la vie de Dieu dans votre vie. Et ça, c'est une clé vraiment, vraiment importante et je prie et franchement, j'espère que j'arriverai à vous communiquer ça bien parce que ça peut changer votre existence. Et c'est pas juste un truc à entendre comme ça, dire oui, je sais que j'ai un esprit et que mon esprit doit être au-dessus, mais ça doit devenir réel dans notre vie. Pour que notre esprit devienne de plus en plus fort et pour que toute notre existence soit forte. Que nous soyons des hommes et des femmes forts. Pas ballottés, pas à moitié, parce que Dieu nous a créés pour être forts. Et si nous-mêmes nous sommes faibles, comment est-ce que nous voulons amener les gens à quelque chose ? Merci Seigneur. Donc on a besoin de fortifier notre esprit. Vous savez, si vous avez un téléphone portable, le téléphone il est bien, il sait faire beaucoup de choses, c'est très pratique. Mais par contre, si la batterie est vide, il ne sert plus à rien. Hein, vous avez peut-être fait l'expérience des fois d'avoir pas rechargé le portable. Quand la batterie est vide, vous ne pouvez plus téléphoner, vous pouvez plus faire des SMS et parfois même il s'éteint, donc vous avez même plus l'heure, vous avez plus rien. Par contre, quand la batterie est chargée, vous avez l'heure, vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez même aller sur Internet, vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire plein de choses. Mais il faut que la batterie soit remplie. Et de la même manière, notre corps ou notre existence sans un esprit fort, eh ben, elle n'exprime pas toutes les capacités qui sont les siennes. Si vous voulez, votre esprit, on peut le comparer aussi à la batterie. Si la batterie est faible, les capacités sont faibles. C'est vrai pour tous les appareils qu'on peut avoir, comme un appareil électrique ou autre, même des piles. Quand vous mettez des piles dans une lampe, si la pile est faible, la lumière a peut-être une toute petite lueur, mais si les piles sont chargées, ça va éclairer, ça peut même éclairer loin. Et de la même manière, si notre esprit est faible, eh ben notre vie va être faible. Mais si notre esprit est fort, notre vie va être forte et on va pouvoir aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur prépare pour nous. Et maintenant vous allez me dire, bah ouais, mais c'est le Seigneur qui a qu'à s'occuper de mon esprit. Non, le Seigneur t'a déjà tout donné. Mais maintenant, jetons un coup d'œil à Josué. Josué chapitre 1er. Et vous allez voir quelque chose que le Seigneur lui dit. Josué. Oh, merci Seigneur. Josué chapitre 1er, verset 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert du Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Éthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. » Il dit pas « Je te fortifie et je te donne du courage. » Il dit « Fortifie-toi et prends courage. » Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à la part de leur donner. Verset 7. « Fortifie-toi seulement et aie bon courage. » En agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, et encore une fois, ne t'ai-je pas donné cet ordre, pas cette option, pas cette suggestion, cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Donc là, très clairement, on voit que bon, Dieu donne des choses, rend des choses disponibles à Josué, et lui donne des conseils, mais Dieu lui dit « fortifie-toi ». Quand on dit à quelqu'un « fortifie-toi », c'est comme si je te dis « habille-toi, lève-toi, couche-toi ». Ça veut dire que c'est toi-même qui dois agir sur toi-même. Hein? Et Dieu nous dit « fortifie-toi et prends courage ». Et pour pouvoir se fortifier ou prendre courage, justement, on doit comprendre comment nous sommes faits. Quelqu'un qui ne comprend pas qu'il est esprit, qu'il a une âme et qu'il vit dans un corps, il va dire « Mais comment je peux me fortifier? Je suis découragé, je suis au bout du rouleau, comment je fais ?» Mais quand tu comprends que même si tu peux être à un moment donné découragé, eh bien, fortifie-toi, tu réalises que le découragement, il vient de ton âme, mais ton esprit, c'est-à-dire qui tu es vraiment, peut se fortifier. Et je vais vous montrer comment avoir un esprit fort. Mais en tout cas, nous avons notre part à jouer. Et Dieu nous donne cette responsabilité et il envoie ce message pour que nous puissions avoir un esprit fort, être fort et jouir pleinement de la vie de Dieu qui est en nous. Alléluia. Si tu as un esprit fort, tu peux faire face à toutes les situations possibles et imaginables. Si tu as un esprit fort, tu peux te tenir tous les jours dans la victoire. Tu peux tous les jours vivre la vie abondante de Dieu. Tu peux tous les jours réussir dans ce que tu entreprends. Tu peux tous les jours être au top du top. Et moi, je refuse, et je le dis haut et fort, d'accepter l'idée selon laquelle il est normal que par moment on soit découragé. Non, il n'est pas normal. Si ton esprit est fort, tu es fort. Et si le découragement s'approche, selon l'expression si bien consacrée, tu ne peux peut-être pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux les empêcher d'y faire un nid. C'est-à-dire que quand le découragement monte dans ton âme et arrive vers toi, ton esprit automatiquement réagit et dit « Non, pas de découragement. Je suis fort et je prends courage. » Pour en arriver là, il nous faut travailler, fortifier notre esprit. Fortifier notre esprit. Oh, merci Seigneur. Vous êtes prêts à faire ce travail ? Alléluia. La vie de Dieu est totalement disponible. Et de notre esprit, disait Proverbe, va jaillir les sources de la vie. Donc notre esprit doit être fort. C'est que nous avons notre part. Des fois, on dit, ouais, mais Dieu dit ceci dans sa parole, Dieu dit cela, et on prie, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, ou Seigneur, fais. Mais aujourd'hui, Seigneur te répond en te disant, fortifie-toi et prends courage. Si tu n'arrives plus à croire pour quelque chose, fortifie-toi et prends courage. Si tu es dans le découragement, fortifie-toi et prends courage. Si tu es malade, fortifie-toi, parce que la parole déclare que l'esprit d'un homme le soutient dans la maladie. Alléluia. Oh, merci Seigneur. De lui vient la vie, la santé, l'épanouissement. Donc vous avez compris un petit peu à travers ces passages pourquoi c'est intéressant d'avoir un esprit fort et pourquoi c'est nécessaire. Et tout simplement, Dieu nous le demande. Vous savez, quelquefois, on peut vivre une espèce de fatigue aussi morale ou même spirituelle. Hein. Et des fois, on peut dormir des heures et des heures, mais on est toujours fatigué. Et ça vient souvent du fait que notre esprit est fatigué, que notre esprit n'est pas nourri, notre esprit n'est pas fort. Et d'où l'importance de fortifier notre esprit. Alors, je vais vous montrer en quelques points rapidement, et je pense qu'on reviendra dessus, quelques clés pour avoir un esprit fort. La première, on l'a déjà entrevue à travers deux passages qu'on a lus, c'est de nourrir notre esprit. On pourrait dire aussi de manger. Physiquement, pour être fort, il faut manger. D'accord ? La même manière, spirituellement, pour être fort, il nous faut manger. Il nous faut nourrir notre esprit. Nourrir notre esprit. Au même titre que tous les jours, on a besoin d'un certain nombre d'apports nutritionnels pour notre corps, tu as besoin d'apports nutritionnels pour ton esprit. Pour ton esprit. Et je vais vous montrer plusieurs passages. On a déjà vu avec Josué, en même temps qu'il lui dit « Fortifie-toi », il lui parle aussi du livre de la loi qu'il doit méditer jour et nuit pour agir selon ce qui est écrit, et alors il réussira. Méditer, ça veut dire se le passer, se le repasser, se le repasser. Hein, et on peut avoir également cette image où quand vous voyez les bovins, là, les vaches qui ruminent l'herbe. Hein, et le terme méditer, c'est quasiment la même chose que ruminer. Donc on a besoin de ruminer. Et des fois, elles avalent une première fois, puis ça remonte et on rerumine. Jusqu'à ce que ce soit travaillé et qu'ensuite on l'avale, on l'ingurgite et maintenant ça apporte les éléments que ça doit apporter. Et de la même manière, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu, de nourrir notre esprit, pas seulement en l'entendant vaguement comme ça, mais en la ruminant jusqu'à ce que ça descende, que ça se digère et que ça libère à l'intérieur les éléments nécessaires pour que notre esprit soit fort et que de notre esprit jaillisse la vie de Dieu. Donc cette nourriture, c'est quoi? Évidemment, c'est la parole de Dieu. On va prendre Matthieu 4:4. Oh, merci Seigneur. Parfois on rumine du chewing-gum, mais ruminer la parole de Dieu, ça fait du bien. Alléluia. Et en plus, on peut l'avaler. Jésus répondit, Matthieu 4:4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pas par hasard qu'il fait le parallèle avec le pain. Le pain, ça se mange. Si tu as du pain posé sur une table, tu peux bien l'avoir du pain dans ta maison. Si tu ne le manges pas, il va te servir à rien. Et tu peux mourir de faim à côté d'une jolie baguette de pain. Donc l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons, au même titre que notre corps a besoin qu'on mange quelque chose pour qu'il lui fasse du bien, nous avons besoin de manger la parole de Dieu pour qu'elle fasse du bien à notre esprit et pour qu'elle nous fortifie. Ça ne suffit pas d'avoir la Bible posée sur une étagère. Ça suffit même pas que d'entendre comme ça vaguement, il faut manger. Vous savez, manger, il y a plusieurs étapes. Il y a le fait d'avoir la chose devant soi, on la met dans la bouche, c'est une chose. Ensuite, on rumine, ou on mâche, ou je ne sais pas comment il faut dire. Et ensuite, on avale, on digère, et ça nous fait du bien. Et de la même manière, la parole de Dieu, il ne suffit pas que de l'entendre un petit peu comme si on la mettait dans la bouche, juste à y goûter. Il faut aussi mâcher, ruminer, méditer cette parole. Vous savez, même si vous mettez le pain dans votre bouche, si à un moment donné vous ne le mâchez ni ne l'avalez, il ne vous sert toujours à rien. Prenez la parole, mais mâchez, ruminez, et ensuite avalez, mangez cette parole. L'avaler, c'est aussi la recevoir ou l'accepter. Hein? La parole de Dieu déclare aussi, recevez avec douceur la parole de Dieu qui peut vous sauver. Hein? Donc on a besoin non seulement de la goûter, mais de la méditer et de l'avaler pour qu'elle nourrisse notre esprit. Qu'elle nourrisse notre esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Donc comme vous mangez du pain, vous pouvez manger la parole. ou quand vous mangez un fruit, vous pouvez manger, et non seulement vous pouvez, vous devez manger la parole de Dieu. Vous devez nourrir votre esprit. Pas juste comme ça. Et la manière, bien sûr, c'est pas avec notre bouche, forcément. Hein. La parole déclare, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous entendez, en fait, c'est comme si vous vous mettez en bouche, ça rentre dans votre oreille. Maintenant, vous avez le choix. C'est soit je la médite et je la fais travailler et je l'accepte dans mon cœur, au même titre que dans ma bouche je mâche puis j'avale, ou soit ça arrive dans mon oreille et ça reste là et au bout d'un moment ça va sortir, ou pire encore ça ressort de l'autre côté. Hein, parce que de la même manière qu'un aliment, si vous le prenez en bouche et que vous le recrachez, il vous sert à rien. Merci Seigneur. Mais c'est aussi un bon parallèle spirituel parce que si tu entends une mauvaise nourriture, tu peux aussi la recracher. T'es pas obligé de méditer tout ce que tu entends. Et d'ailleurs, c'est important de trier dans tout ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on va accepter et méditer, ou qu'est-ce qui va juste rentrer dans l'oreille, mais qu'on va aussitôt rejeter, de la même manière qu'on peut recracher quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Hein. Mais en tout cas, on a besoin, pour avoir un esprit fort, de le nourrir. Ensuite, 1 Timothée 4, on va prendre le verset 6. Donc Paul est en train de donner des instructions à Timothée sur le service, et il dira, en exposant ces choses aux frères, donc il lui a un peu montré qu'est-ce qu'il devait enseigner aux gens, et il leur dit, tu seras un bon ministre, nourri des paroles de la foi. Donc on retrouve la notion de nourriture. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Verset 7, repousse les contes profanes des vieilles femmes. Et verset 8, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Donc là, on voit encore deux choses, se nourrir des paroles de la foi et aussi s'exercer. Les gens, comme je disais tout à l'heure, exercent facilement leur corps. Mais là, il nous est dit que, non pas qu'il faille négliger nos corps, mais que, en comparaison à l'exercice spirituel, l'exercice de notre corps sert à peu de choses. Donc on a besoin, premièrement, de manger, deuxièmement aussi de faire de l'exercice. Alors qu'est-ce que c'est faire de l'exercice pour notre esprit ? Eh bien, ça veut dire de pratiquer la parole de Dieu. La Bible déclare de ne pas seulement écouter ou entendre, mais aussi de mettre en pratique. Jésus plusieurs fois dira, celui qui garde mes commandements et qui les met en pratique. Donc ça fonctionne ensemble. Maintenant on se nourrit de la parole, mais il nous faut aussi pratiquer, faire de l'exercice pour développer notre esprit. Un autre élément, c'est de se reposer. Se reposer. Et à ce sujet, dans Hébreux, notamment, il nous est question, on va prendre Hébreux 12, verset 1er. Hébreux 12, verset 1er. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc là, il nous est dit quoi ? Déchargeons-nous, rejetons tout fardeau. Hein? Donc c'est une manière de se reposer, de se décharger de nos fardeaux, bien sûr sur Dieu, et aussi le péché qui nous enveloppe facilement. C'est-à-dire de se délester de certaines choses. Vous savez, si il y a des fois des courses automobiles ou même d'autres choses, c'est même vrai dans l'aviation, tout ça, si on veut aller plus vite, ou bien si on veut faire les avions monter plus haut, consommer moins de carburant, qu'est-ce qu'on fait ? On change les matières. Au lieu d'un siège en métal qui va peser, on met un siège en alu. Au lieu de certaines pièces, on va tout faire pour que ce soit le plus léger possible. On se décharge, on se déleste. Dans une course de voiture, c'est la même chose. On fait des voitures légères. On met pas beaucoup de choses dessus. Si vous regardez les voitures qui vont vite, les voitures de Formule 1, il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques morceaux et on prend les matières les plus légères possibles. On fait des moteurs qui soient adaptés pour s'alléger, parce qu'en s'allégeant, on va pouvoir aller plus vite aussi et avoir plus d'endurance. même les cyclistes, hein, il y a des vélos, les vélos sont légers. Si vous regardez les vélos avec lesquels on fait les courses, c'est des vélos qui sont très légers. Et les gars, ils prennent pas des gros sacs à dos et des gros trucs, ils prennent le minimum. Ils ont une petite gourde d'eau parce qu'il leur faut de l'eau quand même, mais ils mettent un minimum, ils se délestent. Et leurs vêtements, ils mettent une tenue légère qui leur colle au corps pour pas que ça retienne avec le vent. Enfin, voilà, ils se délestent au maximum. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et nous aussi, le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui, de nous délester. Alors, une des choses dont on doit absolument se délester, c'est le péché qui nous enveloppe facilement, comme il est dit là. Mais aussi rejeter tout fardeau, c'est-à-dire déposer nos fardeaux sur lui. Si vous êtes dans la foi, vous savez qu'il a déjà tout porté. Qu'à un moment donné, vous n'acceptez pas d'être chargé par ces choses-là, mais vous les déposez, vous vous déchargez. Donc se reposer sur lui. Et un autre passage dans l'Épître aux Hébreux parle aussi du repos de la foi. Du repos de la foi. Nous sommes appelés à entrer dans le repos de Dieu. Je vous ferai remarquer que se reposer, c'est vrai que ça veut dire par moment de se détendre, de rester tranquille, mais il y a une dimension encore supérieure qui n'est pas seulement de dire qu'il faut être en activité intense un moment et puis s'arrêter pour se reposer, c'est une chose, mais il y a encore beaucoup mieux que ça. Et il y a mieux que ça, parce qu'avec le Seigneur, tu te reposes en même temps que tu marches. Avec le Seigneur, tu te reposes en même temps que tu cours, puisqu'il est dit ici, dans ce passage qu'on vient de lire, verset 2, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi, non, c'est le verset 1er, pardon, courons avec persévérance. Mais en même temps, il dit déchargeons-nous et courons avec persévérance. Donc, en Dieu, ou si nous marchons dans la foi, nous sommes à un moment donné capables de nous reposer alors même que nous sommes en train de travailler. Et ça, c'est une grande clé et c'est extrêmement important, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés surchargé, qui s'épuise en disant ah mais je fais l'œuvre de Dieu, hein. C'est l'œuvre de Dieu, je fais l'œuvre de Dieu. Ils sont fatigués, à un moment ils tombent. C'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est tu te reposes en même temps, parce que celui qui fait les œuvres, disait Jésus, ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Donc c'est vrai que j'agis, je fonctionne, mais je fonctionne pas sur mes ressources personnelles, je fonctionne sur les ressources du Père, parce que c'est lui qui fait les œuvres. Donc je suis dans le repos. Vous savez, quand vous êtes stressé, vous ne vous reposez pas. Quand vous vous posez des questions, quand vous vous inquiétez, vous ne vous reposez pas. C'est extrêmement fatigant de s'inquiéter. C'est extrêmement fatigant de stresser. Les gens qui stressent beaucoup, à un moment donné, font ce qu'on appelle une dépression, parce qu'en fait, leur corps ne suit plus. C'est extrêmement fatigant. Mais si nous avons un esprit fort, nous pouvons être forts dans la foi, et quand nous sommes forts dans la foi, nous vivons ce qu'on appelle le repos de la foi. C'est-à-dire que même si j'ai beaucoup d'activités, je ne suis pas surmené, je ne suis pas dépassé par les choses. Une des manières aussi, c'est de ne pas essayer de faire plein de choses, c'est juste de faire ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Se reposer. Donc quelques éléments, comment avoir un esprit fort? Eh bien, il faut le nourrir avec la parole de Dieu, qu'on va manger, qu'on va aussi méditer, qu'on va faire descendre, qu'on va avaler, qu'on va amener jusqu'à notre esprit. Deuxième chose, faire de l'exercice, c'est remettre en pratique ce que nous avons appris. Et troisième chose, se reposer ou se décharger sur lui. C'est trois choses qui sont vraies dans la vie physique. Souvent, quand quelqu'un est malade, on lui dit peut-être prends tel et tel médicament et repose-toi. De la même façon, dans notre vie spirituelle, il y a certaines choses qu'il nous faut faire, mais il nous faut aussi apprendre à nous reposer. Donc nous avons besoin d'un esprit fort, parce que la Bible nous montre que si notre esprit est fort, la vie de Dieu peut jaillir avec force. Si notre esprit est fort, il nous soutient dans la maladie. Si notre esprit est fort, il nous soutient dans n'importe quelle autre situation. Si notre esprit est fort, la vie de Dieu, la loi de Dieu, la pensée de Dieu est prépondérante, parce que c'est mon esprit qui décide, qui fait la loi, on pourrait dire. C'est-à-dire que même quand mon corps dit quelque chose, si mon esprit est fort, je suis capable de prendre autorité sur la maladie, sur les difficultés. Si mes sentiments, je ne me sens pas bien, si on ne se sent pas bien, eh ben on n'est pas obligé de rester là à ne se sentir pas bien. À un moment donné, ton esprit réagit, tu dis « Attends, ça ne va pas avec la vie de Dieu » et ton esprit réagit et tu commences à prendre autorité. Et là, je parle de nous-mêmes, ça te paraît bizarre, hein. Je ne dis pas qu'on est schizophrène ou quoi, hein. Mais on a un esprit qui a cette capacité d'amener la vie de Dieu dans tout notre être. Donc si jusqu'à aujourd'hui notre corps fait la loi, je vous exhorte fortement à vous nourrir de la parole, et on va aller plus en avant dans ces choses-là prochainement, mais à fortifier votre esprit, à travailler votre esprit. Et en plus, ça tombe vraiment bien en cette période de rentrée, hein, après les vacances où on était un petit peu cool, cool. Souvent, à la rentrée, bon, on reprend le travail, on reprend l'école, on reprend des choses. Et il peut arriver qu'on ait des situations devant nous qui sont un peu des défis. Et bien, vous pouvez, à partir de cette rentrée-là, ne plus vous trouver débordé. Vous pouvez retourner au travail sans vous inquiéter. Vous pouvez aller à l'école sans vous demander ce qui va vous tomber dessus, parce que vous êtes en train d'apprendre à avoir un esprit fort. Et quand votre esprit est fort, quoi qu'il arrive, vous êtes fort. Quoi qu'il arrive, vous êtes debout. Quoi qu'il arrive, vous êtes en bonne santé. Quoi qu'il arrive, vous êtes dans la joie. Si votre esprit est fort, je vous montrerai ce que c'est les signes d'un esprit fort. Comme ça, vous pourrez déjà faire le test pour vous-même si votre esprit est plutôt fort ou plutôt pas très fort. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, patience, la douceur, la bonté, la bienveillance, la foi et la maîtrise de soi. Voilà ce qui sort de votre esprit normalement. Ça, c'est le fruit de l'esprit. On pourrait dire le fruit d'un esprit fort. Si votre esprit est fort, ces choses-là sont fortes dans votre vie. Alors, est-ce qu'on est fort en amour? Est-ce qu'on est fort dans la joie? Est-ce qu'on est fort dans la paix? Est-ce qu'on est fort dans la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de nous-mêmes? S'il y a des choses parmi celles-là où nous sommes faibles, c'est-à-dire qu'on a besoin de fortifier notre esprit dans ce domaine-là, parce qu'un esprit fort, c'est un esprit qui fait en sorte que vous deveniez plein d'amour, plein de joie, plein de paix, plein de patience, plein de bonté, plein de bienveillance, plein de foi, plein de douceur et plein de maîtrise de vous-même. Donc quand nous apprenons à fortifier notre esprit, en fait nous apprenons à développer tout ça dans notre vie, et même beaucoup plus, et beaucoup plus. Ça vaut vraiment le coup d'entendre la parole de Dieu et de fortifier notre esprit. Parce que Dieu lui a tout fait, il a tout rendu disponible, mais maintenant si en face on a un esprit faible, quelque part nous-mêmes ça va nous frustrer, parce qu'on ne peut pas exprimer la vie de Dieu et ça empêche aussi certaines choses que Dieu aurait préparées pour nous de se manifester. 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 8, on va voir un petit peu les états d'âme de Paul, où il dit « Nous ne voulons pas, frères, vous laissez ignorer l'affliction qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Ça ressemble parfois à des gens qui disent ben « voilà, c'est plus fort que moi, j'en peux plus, j'en ai marre, il n'y a plus d'espoir, c'est plus possible. » À ce moment-là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que bon, Paul, son esprit n'était pas très très fort à ce moment-là. Puisque s'il dit qu'ils ont même désespéré jusqu'à se demander s'ils allaient conserver la vie et qu'ils étaient excessivement accablés, on voit quand même quelqu'un comme Paul, et bien à ce moment-là, son esprit n'était pas vraiment fort. Mais un petit peu plus loin, dans 2 Corinthiens 4, au verset 8, on a une autre image de Paul qui lui correspond mieux, je pense, et qui devrait nous correspondre. Et si aujourd'hui, on est dans 1 Corinthiens 1, 8, où notre esprit est accablé au désespoir et que nous nous demandons même si ça vaut la peine de vivre, eh bien quand nous apprenons à développer notre esprit et à avoir un esprit fort, on va commencer à vivre 2 Corinthiens 4 verset 8 où il est dit « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Voilà un esprit fort. Un esprit fort, ça ne veut pas dire que la personne n'a jamais un problème, mais ça veut dire, ok, on est pressé de toutes parts, mais on n'est pas réduit à l'extrémité. On est dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. Ça, c'est un esprit fort. Si aujourd'hui, il y a le désespoir qui arrive et que tu désespères, ça veut dire que tu as besoin de fortifier ton esprit. Parce que si ton esprit est fort, tu ne désespères pas. Vous pouvez mettre deux personnes devant exactement le même problème. Et elles peuvent avoir des réactions absolument opposées en fonction de l'état de leur esprit. Si ton esprit est faible, le problème, tu vas commencer... Et parfois, ça se voit même physiquement. Les gens commencent à être comme ça, à se courber, ils sont pas bien. Mais si tu as un esprit fort devant le même problème, tu peux rester debout. Tu dis, ok, j'ai un problème, mais je ne suis pas désespéré. Parce que je sais en qui j'ai cru et je commence à travailler jusqu'à ce que maintenant cette vie qui est en moi, dans mon esprit, vienne et jaillisse pour transformer la situation. au moment où, quand mon esprit est faible, c'est la situation qui vient et qui commence à transformer mon existence. Mais quand mon esprit est fort, c'est ce qui jaillit de mon esprit qui va transformer la situation. Et ça, c'est ce pourquoi nous existons. Et Dieu nous a créés avec cette autorité, cette capacité de changer les circonstances autour de nous. Mais il nous faut pour ça un esprit fort. Donc je crois que c'est intéressant d'avoir un esprit fort, hein, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Ça nous permet d'être des gens équilibrés. Ça nous permet d'être debout. Ça nous permet d'être dans la victoire. Ça nous permet de voir les promesses et la puissance de Dieu à l'œuvre dans notre vie, et ce, tous les jours et tout le temps. Tout le temps. Et quoi que soit l'endroit où on se trouve ou ce qui est autour de nous, peu importe, si notre esprit est fort, nous sommes forts. J'ai dit tout à l'heure, si notre esprit est fort, eh bien on va être aussi beaucoup plus sensible et beaucoup plus réceptif aux réalités spirituelles. Puisque notre esprit, c'est notre partie qui est faite pour être au contact du monde spirituel. Donc si nous voulons, et ça ne change pas, et nous continuons de marcher dans ce sens-là, voir la gloire de Dieu manifestée, si nous voulons voir la puissance de Dieu à l'œuvre, si nous voulons être des serviteurs efficaces dans lesquels eh bien, le Saint-Esprit agit abondamment, où les dons spirituels fonctionnent, où il y a des choses qui se passent, eh bien, nous avons besoin d'un esprit fort. Parce qu'un esprit fort est capable de mieux capter les vérités spirituelles, est capable de mieux capter la puissance de Dieu, est capable de mieux voir ce qui se passe dans le monde spirituel, de discerner et aussi de recevoir de Dieu des révélations et ensuite de les amener et de les libérer dans le monde naturel. Hein? Donc en même temps qu'on observe comment avoir un esprit fort, on l'observe dans la perspective de, entre guillemets, vivre mieux au quotidien, mais aussi dans la perspective d'être plus fort, plus capable dans le monde spirituel et dans la perspective de vivre toujours plus cette gloire de Dieu qui doit se manifester et qui commence à se manifester et qui va se manifester de plus en plus. Mais nous avons besoin d'un esprit fort. OK ?